Dans la pure et monotone vie des jeunes filles, il vient une heure délicieuse où le soleil leur épanche ses rayons dans l'âme, où la fleur leur exprime des pensées, où les palpitations du cœur communiquent au cerveau leur chaude fécondance et fondent les idées en un vague désir. Jour d'innocente mélancolie et de suave joyeuseté. Quand les enfants commencent à voir, ils sourient. Quand une fille entrevoit le sentiment dans la nature, elle sourit comme elle souriait enfant. Si la lumière est le premier amour de la vie, l'amour n'est-il pas la lumière du cœur? Le moment de voir clair aux choses d'ici-bas était arrivé pour Eugénie. Matinale, comme toutes les filles de province, elle se leva de bonne heure, fit sa prière et commença l'œuvre de sa toilette, occupation qui désormais allait avoir un sens. Elle lissa d'abord ses cheveux châtains, tordit leur grosse natte au-dessus de sa tête avec le plus grand soin, en évitant que les cheveux ne s'échappassent de leurs tresses, et introduisit dans sa coiffure une symétrie qui rehaussa la timide candeur de son visage, en accordant la simplicité des accessoires à la naïveté des lignes. En se lavant plusieurs fois les mains dans de l'eau pure qui lui durcissait et rougissait la peau, elle regarda ses beaux bras ronds et se demandait ce que faisait son cousin pour avoir les mains si mollement blanches, les ongles si bien façonnés. Elle mit des bas neufs et ses plus jolis souliers. Elle se laça droit, sans passer d'œillet. Enfin, souhaitant pour la première fois de sa vie de paraître à son avantage, elle connut le bonheur d'avoir une robe fraîche, bien faite et qui la rendait attrayante. Quand sa toilette fut achevée, elle entendit sonner l'horloge de la paroisse et s'étonna de ne compter que 7 heures. Le désir d'avoir tout le temps nécessaire pour se bien habiller l'avait fait lever trop tôt. Ignorant l'art de remanier 10 fois une boucle de cheveux et d'en étudier l'effet, Eugénie se croisa bonnement les bras, s'assit à sa fenêtre, contempla la cour, le jardin étroit et les hautes terrasses qui le dominaient. Vue mélancolique, bornée, mais qui n'était pas dépourvue des mystérieuses beautés particulières aux endroits solitaires ou à la nature inculte. Auprès de la cuisine se trouvait un puits entouré d'une margelle et à poulie maintenue dans une branche de fer courbée qu'embrassait une vigne aux pampres flétris, rougis, brouis par la saison. De là, le tortueux sarment gagnait le mur, s'y attachait, courait le long de la maison et finissait sur un bûcher où le bois était rangé avec autant d'exactitude que peuvent l'être les livres d'un bibliophile. Le pavé de la cour offrait ses teintes noirâtres, produites avec le temps par les mousses, par les herbes, par le défaut de mouvement. Les murs épais présentaient leurs chemises vertes, ondées de longues traces brunes. Enfin, les 8 marches qui régnaient au fond de la cour et menaient à la porte du jardin étaient disjointes et ensevelies sous de hautes plantes, comme le tombeau d'un chevalier enterré par sa veuve au temps des croisades. Au-dessus d'une assise de pierre toute rongée s'élevait une grille de bois pourri, à moitié tombée de vétusté, mais à laquelle se mariaient à leur gré des plantes grimpantes. De chaque côté de la porte à claire-voie s'avançaient les rameaux tortus de 2 pommiers rabougris. 3 allées parallèles, sablées et séparées par des carrés, dont les terres étaient maintenues au moyen d'une bordure en buis, composaient ce jardin, que terminait, au bas de la terrasse, un couvert de tilleuls. À un bout, des framboisiers. À l'autre, un immense noyer qui inclinait ses branches jusque sur le cabinet du tonnelier. Un jour pur et le beau soleil des automnes naturels aux rives de la Loire commençait à dissiper le glacis imprimé par la nuit aux pittoresques objets, aux murs, aux plantes qui meublaient ce jardin et la cour. Eugénie trouva des charmes tout nouveaux dans l'aspect de ces choses, auparavant si ordinaires pour elle. 1000 pensées confuses naissaient dans son âme et y croissaient à mesure que croissaient au dehors les rayons du soleil. Elle eut enfin ce mouvement de plaisir vague, inexplicable, qui enveloppe l'être moral comme un nuage envelopperait l'être physique. Ces réflexions s'accordaient avec les détails de ce singulier paysage et les harmonies de son cœur firent alliance avec les harmonies de la nature. Quand le soleil atteignit un pan de mur d'où tombaient les cheveux de Vénus aux feuilles épaisses à couleurs changeantes comme la gorge des pigeons, de célestes rayons d'espérance illuminèrent l'avenir pour Eugénie, qui désormais se plut à regarder ce pan de mur, ses fleurs pâles, ses clochettes bleues et ses herbes fanées, auxquelles se mêla un souvenir gracieux comme ceux de l'enfance. Le bruit que chaque feuille produisait dans cette cour sonore en se détachant de son rameau donnait une réponse aux secrètes interrogations de la jeune fille, qui serait restée là pendant toute la journée, sans s'apercevoir de la fuite des heures. Puis vinrent de tumultueux mouvements d'âme. Elle se leva brusquement, se mit devant son miroir et s'y regarda comme un auteur de bonne foi contemple son œuvre pour se critiquer et se dire des injures à lui-même. « Je ne suis pas assez belle pour lui !» Telle était la pensée de Génie, pensée humble et fertile en souffrance. La pauvre fille ne se rendait pas justice, mais la modestie, ou mieux la crainte, est une des premières vertus de l'amour. Eugénie appartenait bien à ce type d'enfants fortement constitués, comme ils le sont dans la petite bourgeoisie, et dont les beautés paraissent vulgaires. Mais si elle ressemblait à Vénus de Milo, ses formes étaient ennoblies par cette suavité du sentiment chrétien qui purifie la femme et lui donne une distinction inconnue aux sculpteurs anciens. Elle avait une tête énorme, le front masculin mais délicat du Jupiter de Phidias, et des yeux gris auxquels sa chaste vie, en s'y portant tout entière, imprimait une lumière jaillissante. Les traits de son visage rond, jadis frais et roses, avaient été grossis par une petite vérole assez clémente pour n'y point laisser de traces, mais qui avait détruit le velouté de la peau, néanmoins si douce et si fine encore, que le pur baiser de sa mère y traçait passagèrement une marque rouge. Son nez était un peu trop fort, mais il s'harmonisait avec une bouche d'un rouge de minium, dont les lèvres à mille raies étaient pleines d'amour et de bonté. Le col avait une rondeur parfaite. Le corsage bombé, soigneusement voilé, attirait le regard et faisait rêver. Il manquait sans doute un peu de la grâce due à la toilette, mais pour les connaisseurs, la non-flexibilité de cette haute taille devait être un charme. Eugénie, grande et forte, n'avait donc rien du joli qui plaît aux masses. Mais elle était belle de cette beauté si facile à reconnaître et dont s'éprennent seulement les artistes. Le peintre qui cherche ici-bas un type à la céleste pureté de Marie, qui demande à toute la nature féminine ses yeux modestement fiers, devinés par Raphaël, ses lignes vierges, souvent dues au hasard de la conception, mais qu'une vie chrétienne et pudique peut seule conserver ou faire acquérir, ce peintre, amoureux d'un si rare modèle, eut trouvé tout à coup dans le visage d'Eugénie la noblesse innée qui s'ignore. Il eut vu sous un front calme un monde d'amour. Et dans la coupe des yeux, dans l'habitude des paupières, le je ne sais quoi divin. Ses traits, les contours de sa tête, que l'expression du plaisir n'avait jamais ni altéré ni fatigué, ressemblaient aux lignes d'horizon si doucement tranchées dans le lointain des lacs tranquilles. Cette physionomie calme, colorée, bordée de lueurs comme une jolie fleur éclose, reposait l'âme. Communiquait le charme de la conscience qui s'y reflétait et commandait le regard. Eugénie était encore sur la rive de la vie où fleurissent les illusions enfantines, où se cueillent les marguerites avec des délices plus tard inconnues. Aussi, se dit-elle en se mirant, sans savoir encore ce qu'était l'amour, « Je suis trop laide, il ne fera pas attention à moi. » Puis elle ouvrit la porte de sa chambre qui donnait sur l'escalier et tendit le cou pour écouter les bruits de la maison. « Il ne se lève pas, » pensa-t-elle en entendant la tousserie matinale de Nanon, et la bonne fille allant, venant, balayant la salle, allumant son feu, enchaînant le chien et parlant à ses bêtes dans l'écurie. Aussitôt, Eugénie descendit et courut à Nanon qui trayait la vache. « Nanon, ma bonne Nanon, fais donc de la crème pour le café de mon cousin. » « Mais, mademoiselle, il aurait fallu s'y prendre hier, » dit Nanon qui partit d'un gros éclat de rire. « Je ne peux pas faire de la crème. Votre cousin est mignon, mignon, mais vraiment mignon. » Vous ne l'avez pas vu dans sa chambre louque de soie et d'or? Je l'ai vu, moi. Il porte du linge fin comme celui du surplus à monsieur le curé. Nanon, fais-nous donc de la galette. Et qui me donnera du bois pour le four, et de la farine, et du beurre? Dit Nanon, laquelle, en sa qualité de premier ministre de Grandet, prenait parfois une importance énorme aux yeux de Génie et de sa mère. Faut-il pas le voler, cet homme, pour fêter votre cousin? « Demandez-lui du beurre, de la farine, du bois. Il est votre père, il peut vous en donner. Tenez, le voilà qui descend pour voir aux provisions. » Eugénie se sauva dans le jardin, tout épouvantée, en entendant trembler l'escalier sous le pas de son père. Elle éprouvait déjà les effets de cette profonde pudeur et de cette conscience particulière de notre bonheur qui nous fait croire, non sans raison peut-être, que nos pensées sont gravées sur notre front et saute aux yeux d'autrui. En s'apercevant enfin du froid dénuement de la maison paternelle, la pauvre fille concevait une sorte de dépit de ne pouvoir la mettre en harmonie avec l'élégance de son cousin. Elle éprouva un besoin passionné de faire quelque chose pour lui. Quoi, elle n'en savait rien. Naïve et vraie, elle se laissait aller à sa nature angélique, sans se défier ni de ses impressions ni de ses sentiments. Le seul aspect de son cousin avait éveillé chez elle les penchants naturels de la femme, et ils durent se déployer d'autant plus vivement qu'ayant atteint sa 23e année, elle se trouvait dans la plénitude de son intelligence et de ses désirs. Pour la première fois, elle eut dans le cœur de la terreur à l'aspect de son père, vit en lui le maître de son sort et se crut coupable d'une faute en lui taisant quelques pensées. Elle se mit à marcher à pas précipités en s'étonnant de respirer un air plus pur, de sentir les rayons du soleil plus vivifiants et d'y puiser une chaleur morale, une vie nouvelle. Pendant qu'elle cherchait un artifice pour obtenir la galette, il s'élevait entre la grande Nanon et Grandet une de ces querelles aussi rares entre eux que le sont les hirondelles en hiver. Muni de ses clés, le bonhomme était venu pour mesurer les vivres nécessaires à la consommation de la journée. « Reste-t-il du pain d'hier ? » dit-il à Nanon. « Pas une miette, monsieur. » Grandet prit un gros pain rond, bien enfariné, moulé dans un de ces paniers plats qui servent à boulanger en Anjou. Et il allait le couper quand Nanon lui dit « Nous sommes cinq aujourd'hui, monsieur. »« C'est vrai, » répondit Grandet. « Mais ton pain pèse 6 livres, il en restera. D'ailleurs, ces jeunes gens de Paris, tu verras que ça ne mange point de pain. » « Ça mangera donc de la fripe !» dit Nanon. En Anjou, la fripe, mot du lexique populaire, exprime l'accompagnement du pain. Depuis le beurre étendu sur la tartine, fripe vulgaire, jusqu'aux confitures d'alberge, la plus distinguée des fripes. Et tous ceux qui, dans leur enfance, ont léché la fripe et laissé le pain, comprendront la portée de cette locution. « Non !» répondit Grandet, « ça ne mange ni fripe ni pain. Ils sont quasiment comme des filles à marier. » Enfin, après avoir parcimonieusement ordonné le menu quotidien, le bonhomme allait se diriger vers son fruitier, enfermant néanmoins les armoires de sa dépense, lorsque Nanon l'arrêta pour lui dire « Monsieur, donnez-moi donc alors de la farine et du beurre, je ferai une galette aux enfants. » « Ne vas-tu pas mettre la maison au pillage à cause de mon neveu ?» « Je ne pensais pas plus à votre neveu qu'à votre chien, pas plus que vous n'y pensez vous-même. Ne voilà-t-il pas que vous ne m'avez à 20 que 6 morceaux de sucre, m'en faut 8 ?»« Ah, ça, Nanon, je ne t'ai jamais vu comme ça. Qu'est-ce qui te passe donc par la tête? Es-tu la maîtresse ici? Tu n'auras que 6 morceaux de sucre. »« Eh bien, votre neveu, avec quoi donc qu'il sucrera son café ?»« Avec 2 morceaux, je m'en passerai moi. »« Vous vous passerez de sucre ?» À votre âge, j'aimerais mieux vous en acheter de ma poche. Mêle-toi de ce qui te regarde. » Malgré la baisse du prix, le sucre était toujours, aux yeux du tonnelier, la plus précieuse des denrées coloniales. Il valait toujours 6 francs la livre pour lui. L'obligation de le ménager, prise sous l'Empire, était devenue la plus indélébile de ses habitudes. Toutes les femmes, même la plus niaise, savent ruser pour arriver à leur fin. Nanon abandonna la question du sucre pour obtenir la galette. « Mademoiselle !» cria-t-elle par la croisée. « Est-ce pas que vous voulez de la galette ?»« Non, non !» répondit Eugénie. « Allons, Nanon !» dit Grandet en entendant la voix de sa fille. « Tiens !» Il ouvrit la mette où était la farine, lui en donna une mesure et ajouta quelques onces de beurre au morceau qu'il avait déjà coupé. « Il faudra du bois pour chauffer le four !» dit l'implacable Nanon. « Eh bien, tu en prendras à ta suffisance !» répondit-il mélancoliquement. « Mais alors, tu nous feras une tarte aux fruits, et tu nous cuiras au four tout le dîner. Par ainsi, tu n'allumeras pas de feu. »« Tiens !» s'écria Nanon. « Vous n'avez pas besoin de me le dire !» Grandet jeta sur son fidèle ministre un coup d'œil presque paternel. « Mademoiselle !» cria la cuisinière. « Nous aurons une galette !» Le père Grandet revint chargé de ses fruits et en rangea une première assiettée sur la table de la cuisine. « Voyez donc, monsieur, lui dit Nanon, les jolies bottes qu'a votre neveu. Quel cuir et qui sent bon! Avec quoi que ça se nettoie donc? Faut-il y mettre de votre cirage à l'œuf? Nanon, je crois que l'œuf gâterait ce cuir-là. D'ailleurs, dis-lui que tu ne connais point la manière de cirer le maroquin. Oui, c'est du maroquin. Il achètera lui-même à Saumur et t'apportera de quoi illustrer ses bottes. J'ai entendu dire qu'on fourre du sucre dans leur cirage pour le rendre brillant. « C'est donc bon à manger ?» dit la servante en portant les bottes à son nez. « Tiens, tiens, elles sentent l'eau de Cologne de madame. Ah, c'est-y drôle !»« Drôle ?» dit le maître. « Tu trouves drôle de mettre à des bottes plus d'argent que n'en vaut celui qui les porte ?»« Monsieur, » dit-elle au second voyage de son maître qui avait fermé le fruitier, « est-ce que vous ne mettrez pas une ou deux fois le pot-au-feu par semaine à cause de votre... Oui. Faudra que j'aille à la boucherie. Pas du tout. Tu nous feras du bouillon de volaille. Les fermiers ne t'en laisseront pas chômer. Mais je vais dire à Cornouiller de me tuer des corbeaux. Ce gibier-là donne le meilleur bouillon de la terre. C'est-y vrai, monsieur, que ça mange les morts? T'es bête, Nanon. Ils mangent comme tout le monde ce qu'ils trouvent. Est-ce que nous ne vivons pas des morts? Qu'est-ce donc que les successions? Le père Grandet, n'ayant plus d'ordre à donner, tira sa montre, et voyant qu'il pouvait encore disposer d'une demi-heure avant le déjeuner, il prit son chapeau, vint embrasser sa fille et lui dit « Veux-tu te promener au bord de la Loire sur mes prairies? J'ai quelque chose à y faire. » Eugénie alla mettre son chapeau de paille, cousu, doublé de taffetas rose, puis... Le père et la fille descendirent la rue tortueuse jusqu'à la place. « Où dévalez-vous donc de si matin ?» dit le notaire Cruchot qui rencontra Grandet. « Voir quelque chose, » répondit le bonhomme, sans être la dupe de la promenade matinale de son ami. Quand le père Grandet allait voir quelque chose, le notaire savait par expérience qu'il y avait toujours quelque chose à gagner avec lui. Donc il l'accompagna. « Venez, Cruchot, » dit Grandet au notaire, « vous êtes de mes amis. Je vais vous démontrer comme quoi c'est une bêtise de planter des peupliers dans de bonnes terres. » « Vous comptez donc pour rien les 60 000 francs que vous avez palpés pour ceux qui étaient dans vos prairies de la Loire ?» dit maître Cruchot en ouvrant des yeux hébétés. « Avez-vous eu du bonheur? Coupez vos arbres au moment où l'on manquait de bois blanc à Nantes et les vendre 30 francs ?» Eugénie écoutait sans savoir qu'elle touchait au moment le plus solennel de sa vie et que le notaire allait faire prononcer sur elle un arrêt paternel et souverain. Grandet était arrivé aux magnifiques prairies qu'il possédait au bord de la Loire et où 30 ouvriers s'occupaient à déblayer, combler, niveler les emplacements autrefois pris par les peupliers. Maître Cruchot, voyez ce qu'un peuplier prend de terrain, dit-il au notaire. « Jean !» cria-t-il à un ouvrier, « mesurez avec ta toise dans tous les sens !»« 4 fois 8 pieds !» répondit l'ouvrier après avoir fini. « 32 pieds de perte !» dit Grandet à Cruchot. « J'avais sur cette ligne 300 peupliers, pas vrai? Or, 330 pieds me manquent. Mangez 500 de foin. Ajoutez deux fois autant sur les côtés, 1500. Les rangées du milieu, autant. Alors, mettons 1000 bottes de foin. Eh bien, dit Cruchot pour aider son ami, 1000 bottes de ce foin-là valent environ 600 francs. 1200 à cause de 300 à 400 francs de regain. Eh bien, ça se calculait ce que 1200 francs par an pendant 40 donnes avec les intérêts composés que vous savez. Va pour 60 000 francs, dit le notaire. Je le veux bien. Ça ne fera que 60 000 francs. Eh bien, reprit le vigneron sans bégayer, 2000 peupliers de 40 ans ne me donneraient pas 50 000 francs. Il y a perte. J'ai trouvé ça, moi, dit Grandet en se dressant sur ses ergots. Jean, reprit-il, tu combleras les trous, excepté du côté de la Loire, où tu planteras les peupliers que j'ai achetés. En les mettant dans la rivière, ils se nourriront aux frais du gouvernement, ajouta-t-il en se tournant vers Cruchot et imprimant à la loupe de son nez un léger mouvement qui valait le plus ironique des sourires. Cela est clair. Les peupliers ne doivent se planter que sur les terres maigres, dit Cruchot, stupéfait par les calculs de Grandet. Oui, monsieur, répondit ironiquement le tonnelier. Eugénie, qui regardait le sublime paysage de la Loire sans écouter les calculs de son père, prêta bientôt l'oreille au discours de Cruchot en l'entendant dire à son client: Eh bien, vous avez fait venir un gendre de Paris. Il n'est question que de votre neveu dans tout Saumur. Je vais bientôt avoir un contrat à dresser, père Grandet. Vous êtes sorti de bonne heure pour me dire ça? Reprit Grandet en accompagnant cette réflexion d'un mouvement de sa loupe. Eh bien, mon vieux camarade, je serai franc, et je vous dirai ce que vous voulez savoir. J'aimerais mieux, voyez-vous, jeter ma fille dans la Loire que de la donner à son cousin. Vous pouvez annoncer ça. Mais non, laissez jaser le monde. Cette réponse causa des éblouissements à Eugénie. Les lointaines espérances qui pour elle commençaient à poindre dans son cœur fleurirent soudain, se réalisèrent et formèrent un faisceau de fleurs qu'elle vit coupées et gisant à terre. Depuis la veille, elle s'attachait à Charles par tous les liens de bonheur qui unissent les âmes. Désormais, la souffrance allait donc les corroborer. N'est-il pas dans la noble destinée de la femme d'être plus touchée des pompes de la misère que des splendeurs de la fortune? Comment le sentiment paternel avait-il pu s'éteindre au fond du cœur de son père? De quel crime Charles était-il donc coupable? Question mystérieuse. Déjà son amour naissant, mystère si profond, s'enveloppait de mystère. Elle revint tremblant sur ses jambes, et en arrivant à la vieille rue sombre, si joyeuse pour elle, elle la trouva d'un aspect triste. Elle y respira la mélancolie que les temps et les choses y avaient imprimée. Aucun des enseignements de l'amour ne lui manquait. À quelques pas du logis, elle devança son père et l'attendit à la porte après y avoir frappé. Mais Grandet, qui voyait dans la main du notaire un journal encore sous bande, lui avait dit « Où en sont les fonds ?»« Vous ne voulez pas m'écouter, Grandet, » lui répondit Cruchot. « Achetez-en vite, il y a encore 20% à gagner en 2 ans. » Outre les intérêts à un excellent taux, 5 000 livres de rente pour 80 000 francs. Les fonds sont à 70 francs. Nous verrons cela, répondit Grandet, en se frottant le menton. Mon Dieu, dit le notaire. Eh bien, quoi? S'écria Grandet au moment où Cruchot lui mettait le journal sous les yeux en lui disant: Lisez cet article. Monsieur Grandet, l'un des négociants les plus estimés de Paris s'est brûlé la cervelle hier après avoir fait son apparition accoutumée à la bourse. Il avait envoyé au président de la Chambre des députés sa démission et s'était également démis de ses fonctions de juge au tribunal de commerce. La faillite de messieurs Roguin et Souchet, son agent de change et son notaire l'ont ruiné. La considération dont jouissait monsieur Grandet et son crédit était néanmoins tel qu'il eût sans doute trouvé des secours sur la place de Paris. il est à regretter que cet homme honorable ait cédé à un premier moment de désespoir, etc. « Je le savais, » dit le vieux vigneron au notaire. Ce mot glaça Maître Cruchot, qui, malgré son impassibilité de notaire, se sentit froid dans le dos en pensant que le Grandet de Paris avait peut-être imploré vainement les millions du Grandet de Saumur. Et son fils, si joyeux hier. « Il ne sait rien encore, » répondit Grandet avec le même calme. « Adieu, monsieur Grandet, » dit Cruchot, qui comprit tout, et alla rassurer le président de Bonfons. En entrant, Grandet trouva le déjeuner prêt. Madame Grandet, au cou de laquelle Eugénie sauta pour l'embrasser avec cette vive effusion de cœur que nous cause un chagrin secret, était déjà sur son siège à patins et se tricotait des manches pour l'hiver. « Vous pouvez manger !» dit Nanon qui descendit les escaliers 4 à 4. « L'enfant dort comme un chérubin. Qu'il est gentil, les yeux fermés. Je suis entrée, je l'ai appelé. Ah bien oui, personne !»« Laisse-le dormir !» dit Grandet. « Il s'éveillera toujours assez tôt aujourd'hui pour apprendre de mauvaises nouvelles. » « Qu'y a-t-il donc ?» demanda Eugénie en mettant dans son café les deux petits morceaux de sucre, pesant on ne sait combien de grammes, que le bonhomme s'amusait à couper lui-même à ses heures perdues. Madame Grandet, qui n'avait pas osé faire cette question, regarda son mari. « Son père s'est brûlé la cervelle. »«
Mon oncle ?» dit Eugénie.
« Le pauvre jeune homme !» s'écria Madame Grandet.
« Oui, pauvre !» reprit Grandet. « Il ne possède pas un sou. »«
Eh ben, il dort comme s'il était le roi de la terre, » dit Nanon d'un accent doux. Eugénie cessa de manger. Son cœur se serra comme il se serre quand, pour la première fois, la compassion, excitée par le malheur de celui qu'elle aime, s'épanche dans le corps entier d'une femme. La pauvre fille pleura.
« Tu ne connaissais pas ton oncle, pourquoi pleures-tu ? » lui dit son père en lui lançant un de ses regards de tigre affamé qu'il jetait sans doute à cet ador.
« Mais, monsieur, dit la servante, qui ne se sentirait pas de pitié pour ce pauvre jeune homme, qui dort comme un sabot sans savoir son sort.
« Je ne te parle pas, Nanon, tiens ta langue !»
Eugénie apprit en ce moment que la femme qui aime doit toujours dissimuler ses sentiments. Elle ne répondit pas.
« Jusqu'à mon retour, vous ne lui parlerez de rien, j'espère, Mme Grandet, » dit le vieillard en continuant.
« Je suis obligé d'aller faire aligner le fossé de mes prés sur la route. Je serai revenu à midi pour le second déjeuner et je causerai avec mon neveu de ses affaires. Quant à toi, mademoiselle Eugénie, si c'est pour ce mirliflor que tu pleures, assez comme cela, mon enfant. Il partira, dardard, pour les grandes Indes. Tu ne le verras plus. »
Le père prit ses gants au bord de son chapeau, les mit avec son calme habituel, les assujettit en s'emmortaisant les doigts les uns dans les autres, et sortit.
« Ah, oh, maman, j'étouffe !» s'écria Eugénie quand elle fut seule avec sa mère. « Je n'ai jamais souffert ainsi !»
Madame Grandet, voyant sa fille pâlir, ouvrit la croisée et lui fit respirer le grand air.
« Je suis mieux, » dit Eugénie après un moment.
Cette émotion nerveuse, chez une nature jusqu'alors en apparence calme et froide, réagit sur Madame Grandet, qui regarda sa fille avec cette intuition sympathique dont sont douées les mères pour l'objet de leur tendresse, et devina tout.
Mais, à la vérité, la vie des célèbres sœurs hongroises, attachées l'une à l'autre par une erreur de la nature, n'avait pas été plus intime que ne l'était celle d'Eugénie et de sa mère. Toujours ensemble dans cette embrasure de croisée, ensemble à l'église, et dormant ensemble dans le même air.
« Ma pauvre enfant !» dit Madame Grandet en prenant la tête d'Eugénie pour l'appuyer contre son sein.
À ces mots, la jeune fille releva la tête, interrogea sa mère par un regard, en scruta les secrètes pensées et lui dit « Pourquoi l'envoyer aux Indes ? S'il est malheureux, ne doit-il pas rester ici ? N'est-il pas notre plus proche parent ?
Oui, mon enfant, ce serait bien naturel. Mais ton père a ses raisons, nous devons les respecter. »
La mère et la fille s'assirent en silence,
l'une sur sa chaise à patins, l'autre sur son petit fauteuil, et toutes deux, elles reprirent leur ouvrage. Oppressée de reconnaissance pour l'admirable entente de cœur que lui avait témoignée sa mère, Eugénie lui baisa la main en disant « Combien tu es bonne, ma chère maman !» Ces paroles firent rayonner le vieux visage maternel, flétri par de longues douleurs. « Le trouves-tu bien ?» demanda Eugénie. Madame Grandet ne répondit que par un sourire, puis, après un moment de silence, elle dit à voix basse « L'aimerais-tu donc déjà ? Ce serait mal !»« Mal ?» reprit Eugénie. « Pourquoi ? Il te plaît ? Il plaît à Nanon ? Pourquoi ne me plairait-il pas ?» « Tiens, maman, mettons la table pour son déjeuner. » Elle jeta son ouvrage, la mère en fit autant en lui disant « Tu es folle !» Mais elle se plut à justifier la folie de sa fille en la partageant. Eugénie appela Nanon. « Quoi, que voulez-vous encore, mademoiselle ?»« Nanon, tu auras bien de la crème pour midi. »« Ah, pour midi, oui, » répondit la vieille servante. « Eh bien, donne-lui du café bien fort. J'ai entendu dire à M. Desgrassins que le café se faisait bien fort à Paris, mais en beaucoup. »« Et où voulez-vous que j'en prenne ? » »« Achète-en. » »« Et si monsieur me rencontre ? » ?»« Il est assez près. » »« Je cours, mais M. Fessard m'a déjà demandé si les trois mages étaient chez nous, en me donnant de la bougie. Toute la ville va savoir nos déportements. » « Si ton père s'aperçoit de quelque chose, » dit Madame Grandet, « il est capable de nous battre. »« Eh bien, il nous battra, nous recevrons ses coups à genoux. » Madame Grandet leva les yeux au ciel pour toute réponse. Nanon prit sa coiffe et sortit. Eugénie donna du linge blanc. Elle alla chercher quelques-unes des grappes de raisin qu'elle s'était amusée à étendre sur des cordes dans le grenier. Elle marcha légèrement le long du corridor pour ne point éveiller son cousin et ne put s'empêcher d'écouter à sa porte la respiration qui s'échappait en temps égaux de ses lèvres. « Le malheur veille pendant qu'il dort, » se dit-elle. Elle prit les plus vertes feuilles de la vigne, arrangea son raisin aussi coquettement que l'aurait pu dresser un vieux chef d'office et la porta triomphalement sur la table. Elle fit main basse dans la cuisine sur les poires comptées par son père et les disposa en pyramide parmi des feuilles. Elle allait, venait, trottait, sautait. Elle aurait bien voulu mettre à sac toute la maison de son père, mais il avait les clés de tout. Nanon revint avec deux œufs frais. En voyant les œufs, Eugénie eut l'envie de lui sauter au cou. Le fermier de la lande en avait dans son panier. Je les lui ai demandés et il me les a donnés pour m'être agréable, le mignon. Après 2 heures de soins, pendant lesquelles Eugénie quitta 20 fois son ouvrage pour aller voir bouillir le café, pour aller écouter le bruit que faisait son cousin en se levant, elle réussit à préparer un déjeuner très simple, peu coûteux, mais qui dérogeait terriblement aux habitudes invétérées de la maison. Le déjeuner de midi s'y faisait debout. Chacun prenait un peu de pain, un fruit ou du beurre et un verre de vin. En voyant la table placée auprès du feu, l'un des fauteuils mis devant le couvert de son cousin, en voyant les 2 assiettées de fruits, le coquetier, la bouteille de vin blanc, le pain et le sucre amoncelés dans une soucoupe, Eugénie trembla de tous ses membres, en songeant seulement alors au regard que lui lancerait son père, s'il venait à entrer en ce moment. Aussi regardait-elle souvent la pendule, afin de calculer si son cousin pourrait déjeuner avant le retour du bonhomme. « Sois tranquille, Eugénie. Si ton père vient, je prendrai tout sur moi, » dit Madame Grandet. Eugénie ne put retenir une larme. « Oh, ma bonne mère, » s'écria-t-elle, « je ne t'ai pas assez aimée. » Charles, après avoir fait 1000 tours dans sa chambre, en chanteronnant, descendit enfin. Heureusement, il n'était encore que 11 heures. Le Parisien ! Il avait mis autant de coquetterie à sa toilette que s'il se fût trouvé au château de la noble dame qui voyageait en Écosse. Il entra de cet air affable et riant qui sied si bien à la jeunesse et qui causa une joie triste à Eugénie. Il avait pris en plaisanterie le désastre de ses châteaux en Anjou et aborda sa tante fort gaiement. « Avez-vous bien passé la nuit, ma chère tante? Et vous, ma cousine ?»«
Bien, monsieur, mais vous ?» dit Madame Grandet.
« Moi, parfaitement. »
« Vous devez avoir faim, mon cousin, » dit Eugénie. « Mettez-vous à table. »«
Mais je ne déjeune jamais avant midi, le moment où je me lève. Cependant, j'ai si mal vécu en route que je me laisserai faire. D'ailleurs, »
il tira la plus délicieuse montre plate que Breguet ait faite.
« Tiens, mais il est 11 heures, j'ai été matinale. »«
Matinale ?» dit Madame Grandet.
« Oui, mais je voulais ranger mes affaires. » « Eh bien, je mangerai volontiers quelque chose, un rien, une volaille, un perdreau. »«
Sainte Vierge !» cria Nanon en entendant ces paroles.
« Un perdreau ?» se disait Eugénie qui aurait voulu payer un perdreau de tout son pécule.
« Venez vous asseoir, » lui dit sa tante. Le dandy se laissa aller sur le fauteuil comme une jolie femme qui se pose sur son divan. Eugénie et sa mère prirent des chaises et se mirent près de lui devant le feu.
Vous vivez toujours ici ? Leur dit Charles en trouvant la salle encore plus laide au jour qu'elle ne l'était aux lumières.
Toujours, répondit Eugénie en le regardant, excepté pendant les vendanges. Nous allons alors aider Nanon et logeons tous à l'abbaye de Noyers.
Vous ne vous promenez jamais ?
Quelquefois, le dimanche après vêpres, quand il fait beau, dit Madame Grandet, nous allons sur le pont. Ou voir les foins quand on les fauche.
Avez-vous un théâtre ?
Allez au spectacle ! S'écria Madame Grandet. Voir des comédiens ? Mais, monsieur, ne savez-vous pas que c'est un péché mortel ?
Tenez, mon cher monsieur, dit Nanon en apportant les œufs, nous vous donnerons les poulets à la coque.
Oh ! Des œufs frais ! Dit Charles, qui, semblable aux gens habitués au luxe, ne pensait déjà plus à son perdreau.
« Mais c'est délicieux, si vous aviez du beurre, hein, ma chère enfant ?»«
Ah, du beurre, vous n'aurez donc pas de galette, » dit la servante.
« Mais donne du beurre, Nanon !» s'écria Eugénie.
La jeune fille examinait son cousin, coupant ses mouillettes, et y prenait plaisir, autant que la plus sensible grisette de Paris en prend à voir jouer un mélodrame où triomphe l'innocence. Il est vrai que Charles, élevé par une mère gracieuse, perfectionné par une femme à la mode, avait des mouvements coquets, élégants, menus, comme le sont ceux d'une petite maîtresse. La compatissance et la tendresse d'une jeune fille possèdent une influence vraiment magnétique. Aussi, Charles, en se voyant l'objet des attentions de sa cousine et de sa tante, ne put-il se soustraire à l'influence des sentiments qui se dirigeaient vers lui, en l'inondant, pour ainsi dire. Il jeta sur Eugénie un de ces regards brillants de bonté, de caresse, un regard qui semblait sourire. Il s'aperçut, en contemplant Eugénie, de l'exquise harmonie des traits de ce pur visage, de son innocente attitude, de la clarté magique de ses yeux, où scintillaient de jeunes pensées d'amour, et où le désir ignorait la volupté.
Ma foi, ma chère cousine, si vous étiez en grande loge et en grande toilette à l'opéra, je vous garantis que ma tante aurait bien raison, vous y feriez faire bien des péchés d'envie aux hommes et de jalousie aux femmes.
Ce compliment étreignit le cœur de Génie et le fit palpiter de joie.
Quoiqu'elle n'y comprît rien.
Oh, mon cousin, vous voulez vous moquer d'une pauvre petite provinciale.
Si vous me connaissiez, ma cousine, vous sauriez que j'abhorre la raillerie. Elle flétrit le cœur, froisse tous les sentiments.
Et il goba fort agréablement sa mouillette beurrée.
Non, je n'ai probablement pas assez d'esprit pour me moquer des autres, et ce défaut me fait beaucoup de tort. À Paris, on trouve moyen de vous assassiner un homme en disant « Il a bon cœur ». Cette phrase veut dire « Le pauvre garçon est bête comme un rhinocéros ». Mais comme je suis riche et connue pour abattre une poupée du premier coup à 30 pas, avec toute espèce de pistolet et en plein champ, la raillerie me respecte. Ce que vous dites, mon neveu, annonce un bon cœur.
Vous avez une bien jolie bague, dit Eugénie. Est-ce mal de vous demander à la voir ?
Charles tendit la main en défaisant son anneau, et Eugénie rougit en effleurant du bout de ses doigts les ongles roses de son cousin.
« Voyez, ma mère, le beau travail !»«
Oh, il y a gros d'or !» dit Nanon en apportant le café.
« Qu'est-ce que c'est que cela ?» demanda Charles en riant.
Et il montrait un pot oblong en terre brune, vernie, faïencé à l'intérieur, bordé d'une frange de cendre, et au fond duquel tombait le café en revenant à la surface du liquide bouillonnant.
« C'est du café boulu !» dit Nanon.
« Ah, ma chère tante, je laisserai du moins quelques traces bienfaisantes de mon passage ici. Vous êtes bien arriérée. Je vous apprendrai à faire du bon café dans une cafetière à la Chaptal. »
Il tenta d'expliquer le système de la cafetière à la Chaptal.
« Ah, bien s'il y a tant d'affaires que ça, » dit Nanon, « faudrait bien y passer sa vie. Jamais je ne ferai de café comme ça.
Ah, bien oui. Et qui est-ce qui ferait de l'herbe pour notre vache pendant que je ferai le café ?»
« C'est moi qui le ferai, » dit Eugénie.
« Enfant, » dit Madame Grandet en regardant sa fille.
À ce mot, qui rappelait le chagrin près de fondre sur ce malheureux jeune homme, les trois femmes se turent et le contemplèrent d'un air de commisération qui le frappa.
« Qu'avez-vous donc, ma cousine ?»«
Chut !» dit Madame Grandet à Eugénie qui allait parler.
« Tu sais, ma fille, que ton père s'est chargé de parler à monsieur. »«
Dites Charles !» dit le jeune Grandet.
« Ah, vous vous nommez Charles, c'est un beau nom !» s'écria Eugénie.
Les malheurs pressentis arrivent presque toujours. Là, Nanon, Madame Grandet et Eugénie, qui ne pensaient pas sans frisson au retour du vieux tonnelier, entendirent un coup de marteau dont le retentissement leur était bien connu.
« Voilà papa !» dit Eugénie.
Elle ôta la soucoupe au sucre en en laissant quelques morceaux sur la nappe. Nanon emporta l'assiette aux œufs, Madame Grandet se dressa comme une biche effrayée. Ce fut une peur panique de laquelle Charles s'étonna sans pouvoir se l'expliquer.
« Eh bien, qu'avez-vous donc ? » leur demanda-t-il.
« Mais voilà mon père !» dit Eugénie.
« Eh bien !»
Monsieur Grandet entra, jeta son regard clair sur la table, sur Charles, il vit tout.
« Ah ! Vous avez fait fête à votre neveu ! C'est bien, très bien, c'est fort bien, » dit-il sans bégayer. « Quand le chat court sur les toits, les souris dansent sur les planchers. »
« Fête ?» se dit Charles, incapable de soupçonner le régime et les mœurs de cette maison.
« Donne-moi mon verre, Nanon, » dit le bonhomme.
Eugénie apporta le verre. Grandet tira de son gousset un couteau de corne à grosse lame, coupa une tartine, prit un peu de beurre, l'étendit soigneusement et se mit à manger debout. En ce moment, Charles sucrait son café. Le père Grandet aperçut les morceaux de sucre, examina sa femme, qui pâlit, et fit trois pas. Il se pencha vers l'oreille de la pauvre vieille et lui dit
« Où donc avez-vous pris tout ce sucre ?»«
Nanon est allée en chercher chez Fessard. Il n'y en avait pas. » Il est impossible de se figurer l'intérêt profond que cette scène muette offrait à ces trois femmes. Nanon avait quitté sa cuisine et regardé dans la salle pour voir comment les choses s'y passaient. Charles, ayant goûté son café, le trouva trop amer et chercha le sucre que Grandet avait déjà serré.
« Que voulez-vous, mon neveu ? » lui dit le bonhomme.
« Le sucre. »«
Mettez du lait, » répondit le maître de la maison. « Votre café s'adoucira. »
Eugénie reprit la soucoupe au sucre que Grandet avait déjà serrée et la mit sur la table en contemplant son père d'un air calme. Certes, la Parisienne, qui, pour faciliter la fuite de son amant, soutient de ses faibles bras une échelle de soie, ne montre pas plus de courage que n'en déployait Eugénie en remettant le sucre sur la table. L'amant récompensera sa Parisienne, qui lui fera voir orgueilleusement un beau bras meurtri dont chaque veine flétrie sera baignée de larmes, de baisers et guérie par le plaisir. Tandis que Charles ne devait jamais être dans le secret des profondes agitations qui brisaient le cœur de sa cousine. alors foudroyée par le regard du vieux tonnelier. « Tu ne manges pas, ma femme ?» La pauvre ilote s'avança, coupa piteusement un morceau de pain et prit une poire. Eugénie offrit audacieusement à son père du raisin en lui disant « Goûte donc à ma conserve, papa. Mon cousin, vous en mangerez, n'est-ce pas ? Je suis allée chercher ces jolies grappes-là pour vous. » « Oh, si on ne les arrête, elles mettront son mur au pillage pour vous, mon neveu. Quand vous aurez fini, nous irons ensemble dans le jardin. J'ai à vous dire des choses qui ne sont pas sucrées. » Eugénie et sa mère lancèrent un regard sur Charles, à l'expression duquel le jeune homme ne put se tromper. « Qu'est-ce que ces mots signifient, mon oncle ? Depuis la mort de ma pauvre mère ?» À ces deux mots, sa voix mollit. « Il n'y a pas de malheur possible pour moi. » « Mon neveu, qui peut connaître les afflictions par lesquelles Dieu veut nous éprouver ?» lui dit sa tante. « Ta 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 !» dit Grandet. « Voilà les bêtises qui commencent. Je vois avec peine, mon neveu, vos jolies mains blanches. » Il lui montra les espèces d'épaules de mouton que la nature lui avait mises au bout des bras. « Voilà des mains faites pour ramasser des écus. Vous avez été élevé à mettre vos pieds dans la peau avec laquelle se fabriquent les portefeuilles où nous serrons les billets de commerce. Mauvais, mauvais !»« Que voulez-vous dire, mon oncle ? Je vous ai pendu si je comprends un seul mot. »« Venez, » dit Grandet. L'avare fit claquer la lame de son couteau, but le reste de son vin blanc et ouvrit la porte. « Mon cousin, ayez du courage !» L'accent de la jeune fille avait glacé Charles, qui suivait son terrible parent en proie à de mortelles inquiétudes. Eugénie, sa mère et Nanon vinrent dans la cuisine, excitées par une invincible curiosité à épier les deux acteurs de la scène qui allait se passer dans le petit jardin humide, où l'oncle marcha d'abord, silencieusement, avec le neveu. Grandet n'était pas embarrassé pour apprendre à Charles la mort de son père. Mais il éprouvait une sorte de compassion en le sachant sans un sou, et il cherchait des formules pour adoucir l'expression de cette cruelle vérité. « Vous avez perdu votre père, ce n'était rien à dire. Les pères meurent avant les enfants, mais vous êtes sans aucune espèce de fortune. » Tous les malheurs de la terre étaient réunis dans ces paroles. Et le bonhomme de fer, pour la troisième fois, le tour de l'allée du milieu dont le sable craquait sous les pieds. Dans les grandes circonstances de la vie, notre âme s'attache fortement au lieu où les plaisirs et les chagrins fondent sur nous. Aussi, Charles examinait-il avec une attention particulière les buis de ce petit jardin, les feuilles pâles qui tombaient, les dégradations des murs, les bizarreries des arbres fruitiers, détails pittoresques qui devaient rester gravés dans son souvenir, éternellement mêlés à cette heure suprême par une mnémotechnie particulière aux passions. « Il fait bien chaud, bien beau, » dit Grandet en aspirant une forte partie d'air. « Oui, mon oncle, mais pourquoi ?»« Eh bien, mon garçon, » reprit l'oncle, « j'ai de mauvaises nouvelles à t'apprendre. Ton père est bien mal. » « Pourquoi suis-je ici ? » dit Charles. « Nanon ! » cria-t-il. « Des chevaux de poste ! Je trouverai bien une voiture dans le pays !» ajouta-t-il en se tournant vers son oncle qui demeurait immobile. « Les chevaux et la voiture sont inutiles, » répondit Grandet en regardant Charles, qui resta muet et dont les yeux devinrent fixes. « Oui, mon pauvre garçon, tu devines, il est mort. Mais ce n'est rien, il y a quelque chose de plus grave. » Il s'est brûlé la cervelle. Mon père ? Oui, mais ce n'est rien. Les journaux glosent de cela comme s'ils en avaient le droit. Tiens, lis. Grandet, qui avait emprunté le journal de Cruchot, mit le fatal article sous les yeux de Charles. En ce moment, le pauvre jeune homme, encore enfant, encore dans l'âge où les sentiments se produisent avec naïveté, fondit en larmes. Allons, bien. Se dit Grandet, ses yeux m'effrayaient. Il pleure, le voilà sauvé. Ce n'est encore rien, mon pauvre neveu, reprit Grandet à haute voix, sans savoir si Charles l'écoutait. Ce n'est rien, tu te consoleras, mais Jamais, jamais, mon père, mon père !»«
Il t'a ruiné, tu es sans argent. » »«
Qu'est-ce que ça me fait? Où est mon père, mon père ?»
Les pleurs et les sanglots retentissaient entre ces murailles d'une horrible façon et se répercutaient dans les échos. Les trois femmes, saisies de pitié, pleuraient. Les larmes sont aussi contagieuses que peut l'être le rire. Charles, sans écouter son oncle, se sauva dans la cour, trouva l'escalier, monta dans sa chambre et se jeta en travers sur son lit en se mettant la face dans les draps pour pleurer à son aise, loin de ses parents. « Il faut laisser passer la première averse, » dit Grandet en rentrant dans la salle où Eugénie et sa mère avaient brusquement repris leur place et travaillaient d'une main tremblante après s'être essuyé les yeux. « Mais ce jeune homme n'est bon à rien, il s'occupe plus des morts que de l'argent. » Eugénie frissonna en entendant son père s'exprimant ainsi sur la plus sainte des douleurs. Dès ce moment, elle commença à juger son père. Quoique assourdie, les sanglots de Charles retentissaient dans cette sonore maison, et sa plainte profonde, qui semblait sortir de dessous terre, ne cessa que vers le soir, après s'être graduellement affaiblie. « Pauvre jeune homme !» dit Madame Grandet. Fatale exclamation. Le père Grandet regarda sa femme, Eugénie et le sucrier. Il se souvint du déjeuner extraordinaire apprêté pour le parent malheureux, et se posa au milieu de la salle. « Ah ça, j'espère, » dit-il avec son calme habituel, « que vous n'allez pas continuer vos prodigalités, Madame Grandet. Je ne vous donne pas mon argent pour un buquet de sucre, ce jeune drôle. » « Ma mère n'y est pour rien, » dit Eugénie. « C'est moi qui... »« Est-ce que tu es majeure ?» reprit Grandet en interrompant sa fille. « Que tu voudrais me contrarier ?»« Songe, Eugénie. Mon père... » Le fils de votre frère ne devait pas manquer chez vous de... Ta 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 ta, dit le tonnelier sur quatre tons chromatiques. Le fils de mon frère par-ci, mon neveu par-là. Charles ne nous est de rien, il n'a ni sou ni maille. Son père a fait faillite, et quand ce mirliflore aura pleuré son sou, il décampera d'ici. Je ne veux pas qu'il révolutionne ma maison.
Qu'est-ce que c'est, mon père, que de faire faillite? Demanda Eugénie.
« Faire faillite, reprit le père, c'est commettre l'action la plus déshonorante entre toutes celles qui peuvent déshonorer l'homme. »«
Ce doit être un bien grand péché, dit Madame Grandet, et notre frère serait damné. »«
Allons, voilà tes litanies, dit-il à sa femme en haussant les épaules. « Faire faillite, Eugénie, reprit-il, est un vol que la loi prend malheureusement sous sa protection. » Des gens ont donné leur denrée à Guillaume Grandet sur sa réputation d'honneur et de probité, puis il a tout pris et ne leur laisse que les yeux pour pleurer. Le voleur de grand chemin est préférable au banqueroutier. Celui-là vous attaque, vous pouvez vous défendre, il risque sa tête. Mais l'autre, enfin Charles, est déshonoré.
Ces mots retentirent dans le cœur de la pauvre fille et y pesèrent de tout leur poids. Probe! Autant qu'une fleur née au fond d'une forêt est délicate, elle ne connaissait ni les maximes du monde, ni ses raisonnements captieux, ni ses sophismes. Elle accepta donc l'atroce explication que son père lui donnait à dessein de la faillite, sans lui faire connaître la distinction qui existe entre une faillite involontaire et une faillite calculée. « Eh bien, mon père, vous n'avez donc pu empêcher ce malheur ?»
Mon frère ne m'a pas consulté, d'ailleurs. Il doit 4 millions.
Qu'est-ce que c'est donc qu'un million, mon père ? Demanda-t-elle avec la naïveté d'un enfant qui croit pouvoir trouver promptement ce qu'il désire.
4 millions, dit Grandet. Mais c'est 4 millions de pièces de 20 sous et il faut 5 pièces de 20 sous pour faire 5 francs.
Mon Dieu, s'écria Eugénie. Comment mon oncle avait-il eu à lui 4 millions? Y a-t-il quelque autre personne en France qui puisse avoir autant de millions?
Le père Grandet se caressait le menton, souriait, et sa loupe semblait se dilater.
Mais que va devenir mon cousin Charles?
Il va partir pour les Grandes Indes, où, selon le vœu de son père, il tâchera de faire fortune.
« Mais a-t-il de l'argent pour aller là ? Je lui paierai son voyage jusqu'à... oui, jusqu'à Nantes. » Eugénie sauta d'un bond au cou de son père. « Ah, mon père, vous êtes bon, vous !» Elle l'embrassait de manière à rendre presque honteux Grandet que sa conscience harcelait un peu. « Faut-il beaucoup de temps pour ramasser 1 million ?» lui demanda-t-elle. « Dame, dit le tonnelier, tu sais ce que c'est qu'un Napoléon ? Eh bien, il en faut 50 000 pour faire 1 million. »« Maman, nous dirons des neuvaines pour lui. » « J'y pensais, répondit la mère. « C'est cela. Toujours dépenser de l'argent, s'écria le père. « Ah ça, croyez-vous donc qu'il y a des 1000 et des 100 ici ?» En ce moment, une plainte sourde, plus lugubre que toutes les autres, retentit dans les greniers et glaça de terreur Eugénie et sa mère. « Nanon, va voir là-haut s'il ne se tue pas, » dit Grandet. « Ah ça !» reprit-il en se tournant vers sa femme et sa fille, que son mot avait rendu pâle. « Pas de bêtises, vous deux, je vous laisse. Je vais tourner autour de nos Hollandais qui s'en vont aujourd'hui. Puis j'irai voir Cruchot et causer avec lui de tout ça. » Il partit.